Je voulais ce matin peut-être prendre un peu aussi des acquis de la réforme. Qu'est-ce que finalement, je ne sais pas, est-ce que nous sommes-nous un peu au courant de ce que c'est que la réforme? Vous avez un peu l'idée? Non, je ne te parle pas à toi. Toi, tu es l'étudiant de l'IBB. Toi, tu n'as pas d'excuses. Tu dois le savoir. Mais est-ce qu'on voit ce que c'est que la réforme? C'est un mouvement qui fait partie de l'histoire de l'Europe. Hein. Ce n'est pas simplement un mouvement qui fait partie du christianisme. C'est un mouvement qui fait partie de l'histoire de l'Europe. Martin Luther n'est pas simplement un personnage de l'histoire du christianisme. C'est un personnage de l'histoire de l'Europe. Surtout l'Allemagne. En Allemagne, il y a un jour férié au nom de Martin Luther. Hein. Enfin, je ne parle pas de Luther King. Lui aussi, c'est un jour férié chez lui aussi, mais ce n'est pas de cela que je parle. Eh bien, nous allons découvrir progressivement ce que c'est que la réforme. Mais je vais juste résumer que la réforme est un mouvement incroyable qui a eu lieu d'une manière incroyable, mais progressivement. C'est dans le cœur des hommes en général. Lorsque le Moyen-Âge est arrivé, les gens ont remarqué que l'humanité était en train de se perdre dans l'obscurité, dans tous les domaines. Et les gens étaient inquiets de ça. Et les gens voulaient revenir aux valeurs anciennes. Et donc, ils voulaient reformer l'histoire. Revenir sur les nouvelles bases. C'est un mouvement qu'on appelle la réformation. C'est-à-dire qu'on voulait revenir sur ce qui a fait la grandeur de l'humanité, c'est-à-dire la période de l'Antiquité. On voulait revenir sur les anciens auteurs, les anciens philosophes. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, nous connaissons plus les Aristote, les Socrate, les Platon, que par exemple des auteurs du Moyen-Âge. C'est parce qu'il y a eu ce mouvement qui est rentré en arrière pour puiser des valeurs qui existaient là-bas, qui étaient des valeurs qui étaient bien. Alors qu'au Moyen-Âge, c'était la barbarie, la tuerie, la magie, l'obscurantisme, l'occultisme, etc. Mais dans le monde des chrétiens aussi, s'est passé la même chose. Alors qu'on voyait de plus en plus une église glorieuse, grande, mais de moins en moins ancrée dans la parole, des voix ont commencé à s'élever à l'intérieur de l'église catholique, souhaitant qu'on revienne au temps du premier siècle, à l'époque de Paul, à l'époque des apôtres, à l'époque de Jésus, et revivre le christianisme sur ces bases-là. C'est ça la réforme. Beaucoup d'hommes sont morts pour désirer, demander, exiger le retour à tout simplement la pratique chrétienne normale que Jésus a laissée. Beaucoup des précurseurs de la réforme sont morts, notamment un qui est très très connu, qui s'appelle Jean Hus. Lui, c'était un Tchèque, et il est mort. Il a été mis au bûcher, hein, donc il y a eu un tribunal avec l'Inquisition, et puis on l'a brûlé. Mais une phrase qu'il a dite était comme une prophétie qui va s'accomplir un siècle après. Il a dit, ils ont tué aujourd'hui le coq, Hus de Han, en flamand, hein, le coq. Ils ont tué aujourd'hui le coq, mais un jour, un cygne s'élèvera et ils ne pourront rien contre lui. Et c'est Martin Luther, un siècle après. Et quand Martin Luther s'est élevé contre l'Église catholique, ils ont été complètement incapables de vraiment renverser, le mettre KO, le faire mourir comme ils ont fait avec les autres. Un des piliers majeurs de la réforme, il y a cinq piliers sur lesquels on peut résumer ce que c'est que la réforme. Et je vais d'abord vous montrer ces cinq piliers. Ce sont les fameux solas. Vous connaissez ? Seul, seul, seul. Il y en a cinq au total. Tu as réussi à le sortir. Ah, c'est génial ! C'est bien. Ça veut dire que je commence à connaître un peu la technologie, c'est chouette. Enfin, c'est pas parfait, mais enfin, voilà. Il critique mon... Alors, les sola, comme j'ai mis, les sola, sola c'est en latin, hein. Sola en latin, ça veut dire seul, ok? Alors, ah oui, c'est vrai, je comprends la difficulté dans laquelle je t'ai mis, hein. Excuse-moi, mais la technologie et moi, c'est pas toujours, voilà. Alors, les sola, ce sont les cinq piliers de la réforme protestante. La réforme qu'a engendrée, qu'a démarré Luther et que d'autres réformateurs vont poursuivre par la suite. Alors, donc, alors les... Il y a des spécialistes ici qui sont... Il y a des spécialistes ici, c'est bien. Alors, donc, ce sont des piliers de la réforme protestante. Alors, on en a cinq au total. Sola scriptura, ça veut dire l'écriture seule, la Bible seule. Pourquoi ? Parce que dans le monde du catholicisme de l'époque, la Bible n'était pas la seule autorité. Ici, les protestants affirment que la Bible est la seule autorité, l'autorité suprême en matière de doctrine. Et les quatre autres sola, évidemment, dépendent de la Bible. Alors, sola fide, la foi seule, le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion, mais par la foi seule. La foi, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Sola gratia, la grâce seule. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit la Bible, au moyen de la foi. Solus Christus, seul Christ, en Jésus seul. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Et puis, enfin, le dernier pilier, soli deo gloria, à Dieu seul la gloire. Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier. La gloire de Dieu est le but du salut et de la vie du sauvé. Ça, ce sont les cinq piliers, les cinq principes de la réforme. Et c'est ce qui fait aujourd'hui les principes sur lesquels la foi protestante repose. Tous les protestants, qu'ils soient des protestants réformés, méthodistes, anglicans, enfin, si on peut dire que les protestants, les anglicans sont des protestants, que ce soit des mennonites, que ce soit des baptistes, des adventistes, des évangéliques, il y en a tellement, il y en a tellement parmi les protestants, eh bien, tous sont issus de cette réforme. Tous ont ces cinq piliers comme la base de leur foi, de leur croyance. Ce matin, je voudrais parler d'un des piliers, un des solas, et c'est le premier, la sola scriptura, l'écriture seule. Et j'aimerais vraiment partager cela, je ne serai pas très 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 long, mais pour juste actualiser la nécessité d'avoir la Bible, la parole de Dieu, de considérer la parole de Dieu comme quelque chose d'important. Des gens sont morts pour la Bible. Vous connaissez l'histoire de la Bible. La Bible, c'est le livre le plus connu au monde. C'est le livre qui a été le plus imprimé, le plus édité au monde. C'est le livre qui a été le plus traduit au monde. Il y a plus de 2200 langues dans lesquelles la Bible a été traduite. C'est le seul livre au monde qui a un tel record. Il y a des exemplaires de la Bible, pourtant, qui ont été brûlés énormément en Inde, en Chine, au Mexique, dans plein d'endroits. On a brûlé des Bibles. On a empêché les gens de lire la Bible. L'Église catholique avait fermé la possibilité de lire la Bible à la population. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Sola scriptura. Nous allons prier pour demander l'aide du Seigneur. Merci Seigneur. Merci ce matin de nous accompagner dans la connaissance, dans la découverte de ce principe, peut-être juste de l'actualiser pour aujourd'hui, afin qu'aujourd'hui nous comprenions ce qui s'est passé hier et qu'ainsi nous puissions, notre Dieu, notre Père, vivre de ta parole, Seigneur. Accorde-nous cette grâce-là alors que nous en avons le privilège. Au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est vrai que aujourd'hui nous avons la chance d'être dans un pays où il est possible d'acheter la Bible, de la lire et même d'en parler. C'est une chance. Il y a des pays où c'est interdit, où c'est considéré comme un délit d'avoir une Bible avec soi et encore plus d'en parler. Alors nous devons vraiment, encore une fois, lui donner une place importante. Alors, pour nous situer dans le temps, maintenant c'est pour comprendre comment ce pilier, ce principe est devenu un pilier important. Pour nous situer dans le temps, nous devons savoir que dans le Moyen-Âge, les chrétiens, les intellectuels chrétiens, les théologiens, les penseurs, les professeurs, les gens qui pensent, avaient une tendance qui consistait à associer à la Bible Vous entendez le même bruit que moi? C'est quoi, c'est le train? C'est la première fois que c'est aussi près. Vous savez, je fais ça parce que les tremblements de terre, on en a quand même entendu à la radio, hein, donc à la télévision. Alors, enfin bref, bon, c'est pas un tremblement de terre, tout va bien. Non, j'ai pas peur, mais je dois quand même faire attention à savoir où sont mes enfants et les sécuriser. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est plus près que d'habitude. Habituellement, on l'entend loin, mais cette fois-ci, ça a été quand même tout près. Bien, je disais que les intellectuels, les professeurs, les chercheurs, les penseurs, tous ces grands gens-là, les papes, ils avaient pris l'habitude d'associer au texte biblique des réflexions des autres auteurs, des autres penseurs. Notamment, ils avaient l'habitude de prendre les écrits des pères de l'Église. Vous connaissez les pères de l'Église? Il faudrait une fois qu'on s'assoie et qu'on fasse un cours de l'histoire de l'Église. Parce qu'on a un héritage fabuleux derrière nous que nous ignorons et pourtant qui est important. Enfin bref, donc je reviens à mon truc. Donc les pères de l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus après les apôtres, qui ont été parfois formés par les apôtres et qui ont dirigé l'Église à la suite des apôtres, la plupart d'entre eux sont devenus des évêques, c'est-à-dire ils dirigeaient des communautés chrétiennes sur un territoire. Donc ces gens-là ont commencé à prendre, donc les gens ont commencé à prendre leurs écrits et la parole de Dieu, la Bible, et associer cela et essayer d'expliquer les deux choses ensemble. Et puis, plus tard, avec l'Église catholique, qui pensait que c'était la meilleure façon d'évangéliser, a commencé aussi à intégrer des philosophes. C'est comme ça que saint Augustin va intégrer la pensée de Platon, va expliquer par le mécanisme philosophique de Platon ou d'Aristote comment on peut comprendre la foi, etc. Ça a créé beaucoup de problèmes. Mais ça c'est devenu quelque chose de pratiquement normal de faire comme ça. La conséquence a été très grave. Très grave pourquoi? Parce que petit à petit, tous ces écrits ont commencé à avoir la même autorité que la Bible. Tous ces philosophes, pourtant des païens, ont commencé à avoir la même autorité que la Bible. Et il est devenu normal dans l'Église catholique qu'il y ait plusieurs sources d'autorité. Il était normal qu'on dise « oui, la Bible, mais la parole du pape ». Oui, la Bible, mais la tradition de l'Église. Oui, la Bible, mais quand le prêtre se met debout, qu'il interprète la Bible, c'est la même chose que ce qui est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ça devient parole de Dieu. Et c'est contre ça que les réformateurs ont réagi. C'est en réaction de cela qu'ils ont affirmé le principe de la sola scriptura. Ils ont dit non, il n'y a que la Bible seule. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la source d'autorité en matière de foi, en matière de vie. Ni les théologiens, ni les symboles de foi, ni les conciles, encore moins les philosophes païens, ne pouvaient donner une valeur suffisante à la parole de Dieu. Elle suffit à elle-même. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres choses pour que la parole de Dieu devienne parole de Dieu. C'était ça la pensée qui était au fond. Et c'est comme ça que si les préformateurs ont pensé que la parole de Dieu était suffisante pour éclairer tout homme, aider n'importe qui à être sauvé, à connaître Dieu, c'est comme ça que les réformateurs, Luther en premier lieu, ont conçu qu'il fallait traduire la Bible dans les langues des gens, pour que les gens puissent avoir la Bible en main et la lisent eux-mêmes, parce que elle est suffisamment claire, suffisamment accessible pour que nous soyons sauvés. La Bible, on n'a pas besoin d'être spécialiste, intelligent et tout ce qu'on veut. Il suffit qu'on voit les paroles, on peut être touché par l'Évangile simplement en lisant la parole, la Bible. Aujourd'hui, bien sûr, mes amis, tout cela nous paraît évident. Ce que je raconte, dit, mais Gaston, tu dis n'importe quoi. C'est évident, hein. C'est évident qu'aujourd'hui, franchement, vous dites la Bible, les gens ont la Bible en main. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont même des collections de Bibles. Je ne sais pas où c'est que j'ai été, mais j'ai vu le gars, il avait, ça me donnait même envie. Je dis, waouh, celui-là. Il avait acheté la version Semer, la Bible 21. Et toutes les Bibles étaient là. Il les collectionnait. Je dis, est-ce que tu as déjà eu le temps de lire tout ça? Ah, mais non, je les collectionne. C'est beau, les Bibles. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir toutes les Bibles qu'on veut et de lire tout ce qu'on veut dans la Bible. Pire encore, on a non seulement le droit de le lire, nous, mais les païens lisent parfois la Bible et ils nous sortent des histoires incroyables. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais parfois il y a des horreurs que les gens sortent de la Bible et disent que c'est parce que c'est dans la Bible. Donc aujourd'hui, c'est facile pour nous. Mais dans les mœurs de l'époque, dans les mœurs des gens de l'époque, ce n'était pas quelque chose de tout à fait normal. Vous imaginez que la Bible à l'époque était réservée seulement aux prêtres. Seuls les prêtres pouvaient avoir une Bible, seuls les prêtres avaient le droit d'interpréter la Bible, de commenter la Bible. Personne d'autre ne pouvait le faire. Et seule l'Église catholique pouvait dire ce que nous devons comprendre de la Bible. Donc, c'était le principe qui existait. Et vous imaginez que les réformateurs se sont levés contre cela. C'était une remise en question totale de l'autorité du pape, de l'autorité de l'Église, de l'autorité de la tradition. C'était quelque chose de très grave à l'époque. Mais ils ont bravé cela. Parce qu'ils se sont dit, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Et on ne peut pas jouer avec la vérité. La vérité, ça vaut la peine s'il le faut de mourir pour la vérité. Parce que la vérité, c'est la vérité. Mais dire que l'écriture seule ne veut pas dire qu'on exclut les écrits théologiques, les commentaires, les textes, l'étude des contextes, etc. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Sinon, notre ami là-bas, ça sert à rien qu'il aille à l'IBB. Sinon, moi, ça aurait servi à rien d'avoir été à l'IBB, etc. Ça sert à rien qu'on achète des bouquins chez Richard. Alors, si on a cette position extrémiste, hein, on sera au chômage, hein. On va changer de métier, hein. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. En fait, cela veut dire que tout doit plutôt être soumis à l'autorité de l'Écriture. C'est l'Écriture qui devient la norme. Dans le passé, c'est l'Église catholique qui était la norme. L'Écriture était soumise à l'interprétation, à la volonté, à la conduite de l'Église. Mais maintenant, c'est l'Écriture qui devient la norme. Alors, c'est quelque chose de révolutionnaire qui se fait avec la réforme. Et j'aimerais peut-être juste prendre quelques textes bibliques qui ont donné du courage à ces hommes de prendre cette position-là. Tu peux me donner la série de textes de Timothée. Vous connaissez ça, hein? Vous connaissez ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Ah oui, j'aurais dû te mettre le verset 17 aussi. Afin que l'homme de Dieu soit enseigné, formé et propre à toute œuvre bonne. Donc la Bible est parole de Dieu. De la première page à la dernière page, elle est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Ça, c'est un principe important. Autrement dit, son autorité n'est pas l'autorité que l'homme doit déterminer, c'est une autorité qui est déjà fixée par Dieu. Deuxième chose intéressante, la Bible, elle n'est pas là juste pour qu'on la regarde, qu'on la mette sur sa bibliothèque, etc. La Bible a une fonction. Elle a une utilité. Elle sert à quelque chose. À quoi sert-elle ici? Enseigner, convaincre, corriger. Corriger, les amis. C'est-à-dire nous foutre les baffes, nous dire, t'es sur le mauvais chemin. Or, beaucoup de gens, quand tu ouvres ta Bible, surtout nous autres, les pauvres pasteurs, quand tu ouvres la Bible, comme ça, tu viens voir ton frère et ta sœur, là, tu sais, il est écrit que, parfois, il y en a qui ne sont pas très contents avec ça. Mais c'est à ça que ça sert, réformer nos pensées, selon certaines traductions. Au lieu de corriger, certaines traductions disent réformer nos pensées. Elle est là pour ça. Je dois être prêt à accepter que la Bible me touche et m'oblige à changer mon comportement. Et elle est là pour instruire dans la justice, c'est-à-dire instruire dans la façon dont je dois servir Dieu, vivre ma vie en tant que serviteur de Dieu. Quel est le but? Il y a un but, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire formé, qualifié, compétent. C'est pas que simplement la parole de Dieu change seulement notre connaissance, apporte un plus à notre connaissance, mais ça change aussi notre caractère. Ça change aussi notre façon de servir. Enfin voilà. Ça, c'était une conviction qui était dans la tête des réformateurs. Deuxième texte. Ça, c'est un texte plus dans les psaumes, et c'est surtout Luther, notamment, qui a beaucoup mis ce texte en avant, pour affirmer l'autorité de l'Écriture seule. Pourquoi l'autorité de l'Écriture seule? Parce que les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit instruction. Pour qui le conserve, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. J'aime beaucoup ce texte aussi parce que il parle aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est parfaite. Elle a une incidence directe sur nos vies. Est-ce que, d'après ce que nous lisons ici, est-ce que nous avons compris que la parole de Dieu a besoin des psychologues, des sociologues, des chimistes, des anthropologues pour pouvoir éclairer un peu nos cœurs, changer nos vies? Non. Ce texte dit que la parole de Dieu peut faire cela pour nous. Il peut nous emmener à retrouver le bon chemin quand nous sommes égarés. Il peut nous emmener à être préservés de l'orgueil. La parole de Dieu peut nous emmener à être innocents des grands péchés, etc. La parole de Dieu peut jouer un rôle important directement sur notre vie. Pas besoin d'autre chose que de la parole de Dieu. Troisième texte. Enfin, avant d'achever avec ça, vous avez remarqué que quand on parle de la parole de Dieu, il y a plusieurs formalités. Vous avez vu ici, tu peux revenir sur le... Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs termes. On parle des ordonnances, n'est-ce pas? On parle des commandements. On parle des jugements. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est tout ça. C'est tout ça en même temps. Troisième texte. Matthieu chapitre 4, vous connaissez la tentation de Jésus avec le diable. Ce qui est frappant, je ne vais pas tout lire, mais ce qui est frappant, c'est qu'au verset 3, le tentateur s'est approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Comment Jésus lui répond? Il est écrit. Tu remontes encore un peu plus loin? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et puis le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça du haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, donnera les ordres à ses anges, etc., etc. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Il est aussi écrit. Okay? Et puis le diable, verset 8, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra les royaumes, et lui, je donnerai tous ces royaumes, etc. Hein, ces choses, et Jésus lui dit, retire-toi de ça. Car il est écrit. L'écriture seule suffit pour vaincre la tentation, pour vaincre les épreuves, pour vaincre dans les combats. L'écriture seule. Jésus lui-même s'est servi de l'écriture pour avoir la victoire. Ça, c'est un texte aussi qui a convaincu les réformateurs. Et moi, je vais ajouter mon texte à moi, parce qu'il y a plusieurs textes, mais moi, j'ajoute le mien, et je le trouve aussi très, très, très profond. C'est Jean, chapitre 6, verset 63. C'est un de mes textes préférés, parce qu'il m'encourage. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair est inutile. Elle ne sert de rien. Les paroles, ça, c'est Jésus qui parle. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mes amis, je ne sais pas comment vous voyez la parole de Dieu dans vos vies. Moi, quand j'ouvre ma Bible, je vois que c'est Dieu qui me parle. J'entends Dieu me parler. Et je sais que je peux avoir l'intelligence de comprendre cela parce que le Saint-Esprit m'est donné. C'est l'Esprit Saint qui m'ouvre les yeux pour comprendre ce que j'ai à comprendre. C'est lui qui donne vie à sa parole en moi. Et c'est lui qui va permettre que ses paroles aient une dimension spirituelle dans ma vie. Ça ne soit pas seulement quelque chose que je comprends intellectuellement, mais quelque chose que je peux vivre d'une manière spirituelle. Ça peut nourrir ma vie spirituelle. Ça peut me faire vivifier, donc me faire grandir encore. La parole de Dieu nous renvoie à l'autorité de son auteur. Dire écriture seule, c'est reconnaître l'autorité de l'auteur de l'écriture, Dieu. Et dire que c'est seulement la Bible qui est l'autorité pour moi, c'est dire, il n'y a que Dieu qui est mon autorité et qui me parle à travers sa parole. Et vous voyez que, en Jésus-Christ, Dieu déploie des moyens pour nous, par le Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre de sa parole. Et ce texte, je voulais juste vous le partager pour que nous puissions comprendre l'importance de n'investir que dans la parole de Dieu. Tous ces textes soulignent l'importance de la parole de Dieu pour nous encore aujourd'hui. Alors, pour nous les gens d'aujourd'hui, nous pour qui la Bible est la seule autorité en matière de foi et de vie, À quoi ce combat qui a abouti à ce principe de combat des réformateurs, à quoi ce combat nous invite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut avoir en retour? Comment on peut se comporter après avoir compris, réalisé que ces gens se sont battus pour cela? Quelle est l'importance de la parole de Dieu aujourd'hui pour nous? Alors, moi j'ai juste deux recommandations pour terminer. J'aimerais que tout ce combat, la sola scriptura, nous invite à mieux connaître la parole de Dieu, à aimer la Bible, à la chérir, à la respecter. J'aimerais bien, peut-être, le texte de Psaume 119, 103. Le Psaume 119 est rempli de textes sur l'importance de la parole de Dieu. Regardez ça. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Est-ce que c'est la réalité pour vous, mes amis? Est-ce que la Bible, elle est agréable pour vous? Comme du miel, oui? Amen. Amen. Je m'en réjouis. Que la parole de Dieu devienne quelque chose que nous chérissons. Elle devient quelque chose d'important pour nous. Elle compte dans notre vie. Elle fait partie de notre existence. Et mieux encore, elle régule, elle contrôle, elle dirige notre vie. C'est ça le but. Et si ce n'est pas quelque chose que vous savez faire, peut-être prier, Seigneur, donne-moi que la parole de Dieu devienne quelque chose d'agréable pour moi, que je recherche, que j'aime, que je vis chaque jour. Première chose. Deuxième chose, que nous puissions mieux connaître la parole de Dieu. Vous savez, si l'Église catholique est tombée dans ce travers qui était de commencer à associer d'autres pensées païennes et d'intégrer d'autres pensées païennes. Vous savez par exemple que saint Augustin, c'est à cause de lui par exemple qu'on a très mal compris la notion du salut, hein, la justification par la foi. Saint Augustin, il s'est complètement égaré et il a amené l'Église catholique à concevoir la notion du salut d'une manière qui est tout à fait anti-biblique. Eh bien, si nous ne voulons pas nous aussi nous égarer, nous devons apprendre à bien connaître la Bible. Comme ça, si quelqu'un vient nous prêcher sur la Bible des choses qui ne sont pas justes, on va lui dire stop, ça c'est pas bon, c'est pas dans la Bible ça. Mieux connaître la Bible pour ne pas tomber dans le piège dans lequel les autres sont tombés avant nous. Il faut donc pour cela se discipliner, il faut pousser la connaissance plus loin, les études bibliques, publicité non commerciale, les études bibliques. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui croient qu'il suffit de regarder la télé, il suffit d'aller sur enseigne-moi.com, il suffit d'aller sur Top Chrétien, il suffit de regarder, d'écouter les prédications de tel ou de tel ou de tel et on grandit comme ça. Faux! Je le dis, faux! Pour grandir spirituellement, il faut certes avoir son temps personnel, certes, aller de temps en temps aller écouter un prédicateur, certes. Mais pour grandir, bibliquement parlant, il faut aussi avoir le temps d'études collectives. L'individualisme tue la foi. Un chrétien, c'est par essence quelqu'un qui est collectif, qui est communautaire. On ne peut pas concevoir un chrétien tout seul dans son coin. Alors, les études bibliques, c'est important parce que c'est un moment où l'ensemble de l'Église, des frères et des sœurs ensemble, partagent, écoutent la même chose et peuvent discuter. C'est ça qui va créer l'unité de la foi. On ne s'entend pas souvent parce qu'on n'a pas les mêmes prédicateurs. On n'a pas les mêmes maîtres. Alors, quand je parle de ceci, toi tu parles de cela, on ne se comprend pas. Mais quand on est une communauté, qu'on a les mêmes enseignements, on a les mêmes bases, on est unis. Publicité non commerciale. Deuxième chose importante, les enseignements. Et puis, partager les enseignements. Mes amis, est-ce que moi, quand j'étais jeune, je m'amusais souvent quand on avait prêché à l'église, je rentrais chez moi, je résumais les prédications, et puis je cherchais dans la semaine quelqu'un avec qui partager la prédication. Et c'est comme ça que j'ai appris à prêcher. C'est pas grave. Mais c'est comme ça que c'était ma façon d'imprimer la parole de Dieu dans ma vie. Travaillons la parole de Dieu. Achetons des livres, lisons, apprenons le contexte biblique, l'histoire de la Bible, la structure de la Bible. On ne doit pas attendre d'aller à l'IBB pour ça. Enfin, glisser non commercial pour toi aussi, hein. Ouais, Richard. Bien, j'arrive à la conclusion. Le combat de nos prédécesseurs pour que la parole de Dieu soit une parole qui soit vécue. Nous devons les honorer, nous-mêmes en vivant de cette parole-là. Et en faisant en sorte que dans notre vie, seule la parole de Dieu est l'autorité dans notre vie. Bien sûr, on ne peut pas exclure les apports des autres choses, mais soyons comme les gens de Béret. Vous connaissez encore les gens de Béret? Eh bien, eux, tout ce qu'on leur prêchait, ils essayaient de voir si c'était vraiment dans la parole de Dieu. Nous devons tous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, les Écritures seules. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour son œuvre à travers les siècles, dans les sociétés, mais aussi dans les individus. Merci pour la puissance de ta parole encore aujourd'hui, pour sauver, guérir, restaurer, faire aller de l'avant, construire ton Église et la développer. Merci. Merci pour ta parole. Que cette parole ait de l'impact dans nos vies chaque jour. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.